Voilà, au moment d'ouvrir la parole de Dieu, nous prions encore pour évoquer l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, enseigne-nous. Nous te le demandons tous les dimanches, nous devrions te le demander tous les jours. Enseigne-nous. Un peu comme les scientifiques, nous réalisons que plus nous apprenons, plus nous voyons l'étendue de ce qui reste à nous à apprendre. Et tu nous vois, Seigneur, peut-être avides de savoir. Mais nous ne voulons pas nous laisser influencer par le bruit du monde, également par le bruit de nos cœurs. Nous voulons que seule ta parole nous atteigne ce matin. Alors oui, Seigneur, enseigne-nous. Amen. Ce matin, j'ai retenu le texte de l'Évangile parmi les lectures du jour. Le texte qui fait suite à celui qui a, le dimanche dernier, qui a été choisi dans la prédication de Matthias, qui a été lu par Alain, et que d'ailleurs Anne a déjà bien repris dans la liturgie, le pain de vie, hein, vous vous souvenez, je suis le pain de vie, la nourriture spirituelle que Jésus, en donnant son corps, en donnant sa vie pour le monde, et c'est une véritable nourriture. Alors on va lire la suite, c'est-à-dire dans Jean chapitre 6, nous lirons des versets 51 à 71. Hein, Jean 6, 51 à 71. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alors le thème de la méditation de ce matin, qui est proposé un petit peu dans ce texte, mais beaucoup plus dans les autres textes que je ne lis pas, c'est le thème de la sagesse et de la folie. Un thème qu'on a déjà eu l'occasion de reprendre à plusieurs reprises. Alors, un petit rappel, quand on parle dans la Bible de sagesse et de folie, notamment de folie, il ne s'agit pas de désordre mental, d'aliénation mentale, de trouble psychique. Hein, il s'agit de manque de sens. Le fou, c'est l'insensé, celui qui n'a pas la connaissance, qui fait des choses insensées. Hein, le déséquilibré psychique. Hein. Et puis à l'inverse, la sagesse, eh bien, c'est la connaissance, ce qui a du sens. Voilà. Et alors, généralement, quand on traite en méditation ou en prédication, quand on traite ce sujet, on évoque le fait que la sagesse de Dieu est aux antipodes de la sagesse, entre guillemets, des hommes. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes, et vice-versa. C'est-à-dire que la sagesse, moi je préfère dire la pseudo-sagesse des hommes, est folie aux yeux de Dieu. D'ailleurs, Dieu le dit dans sa parole, hein, il dit « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées ». Ça résume absolument le problème. Alors effectivement, ce texte que nous venons de lire est une superbe illustration du problème. Jésus, ici, tient un discours, inacceptable, inécoutable, un discours insensé, un discours qui dépasse tout ce que déjà les braves gens ont dû encaisser, des choses, des paroles qui dérangent, des paroles qui sont choquantes. Comprenez bien, il parle de sa chair qui est une nourriture et qu'il faut vraiment, alors il utilise le verbe, hein, vraiment, il faut vraiment manger ma chair et vraiment boire mon sang. Alors la réaction, hein, on l'a lu, les juifs entre eux se disent, mais comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Il nous prend pour des cannibales. Inacceptable. Et pourtant, c'est l'expression 100% de la sagesse de Dieu, parce que là, ce que Jésus est en train d'expliquer, pas d'expliquer justement, il n'explique pas. Ce qu'il est en train d'exposer, c'est le fait qu'il va venir donner sa vie pour les hommes. Et entre nous, on parle d'une image, hein, Jésus dit « ma chair à manger, mon sang à boire », c'est une image. Vous croyez que c'est une image, ce qui s'est passé sur la croix? Les clous dans ses mains, c'était une image? La couronne d'épines, le sang qui a coulé sur son visage et puis après de son flanc, de ses mains, de ses pieds, c'est une image? Non, c'était vraiment la réalité. Alors bien sûr, on n'a pas mangé, mais vous voyez, au niveau de la chair et du sang, il y a plus qu'une image. Bon, alors, bref, tous ces braves gens, nous avons dit les juifs et puis les disciples, alors les disciples au sens très large, hein, peut-être les 70, là, pas seulement les 12, il y avait beaucoup de disciples. Personne ne comprend. Laissez-moi vous dire que vraiment, dans cette histoire, ce jour-là, personne n'a rien compris à ce qu'a dit Jésus. Alors pour nous, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Nous, on comprend, c'est pas parce qu'on est plus intelligent ou parce qu'on est plus éclairé par le Saint-Esprit, c'est parce que on connaît la suite. On sait ce qui se passe quelques temps après, mais c'est Golgotha. Donc, ça se concrétise, effectivement. Jésus donne son corps, son sang pour l'humanité. Et puis, c'est plus facile aussi parce que, regardez, on vient de partager la scène, et ne trouvez-vous pas que dans ces paroles de Jésus, il y a une sorte de préfiguration de ce qu'il va instituer un peu plus tard, c'est-à-dire la scène, ces gestes qui rappellent le don de son corps. Et puis effectivement, nous mangeons ce bout de pain, nous buvons ce vin. Alors, tout est plus facile pour nous, puis on a eu 2000 ans où les théologiens ont eu le temps de décortiquer et de nous expliquer tout ça dans le détail. Hein. Donc c'est plus du tout la même chose. Mais je reviens au temps où Jésus a prononcé ces paroles. Qui pouvait comprendre? Je crois qu'il faut dire autre chose que seulement l'incompréhension, folie, sagesse. Il faut aller plus loin. Parce que ça m'a posé un problème, je ne vous le cache pas, mais quand vous relisez la façon dont ça se passe, les paroles de Jésus, vous réalisez que Jésus est provocant. Alors attention, je ne dis pas que Jésus est un provocateur. Un provocateur, c'est celui qui le fait par plaisir de provoquer. Hein, ça existe, hein, on en connaît. Mais Jésus, il est nécessairement provocant, Il ne peut pas l'ignorer, parce que voilà, Jésus sait toutes choses à ce moment-là, et il l'assume pleinement. Et la grande question, bien, c'est pourquoi ? Et je me suis posé cette question, et je ne vous cache pas que ça n'a pas été instantané, mais je me suis dit là, c'est le sujet du jour, pourquoi il faut arriver à comprendre pourquoi Jésus assume ce côté provocant. D'autant plus que, regardez bien ce qui se passe, il est dit, dès lors, au verset 66, dès lors plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Ben, Jésus, ce jour-là, il n'a pas été très productif. J'aurais presque envie de dire qu'il n'a pas beaucoup, beaucoup fait avancer la cause de l'Évangile. Il avait réussi à avoir autour de lui tout un ensemble de gens qui le suivaient, qui buvaient ses paroles. La Bible nous dit que les foules étaient captivées par ses paroles, etc. Et ce jour-là, eh ben, il en a perdu un paquet. Donc on se dit, là, mais qu'est-ce qui lui prend, Jésus ? Qu'est-ce qui lui prend ? Il était sur une pente ascendante, et puis d'un seul coup, gros clash, il perd des disciples. Donc la question mérite d'être posée. Pourquoi Jésus est-il provoquant ? Alors, on va aborder les choses sous le meilleur angle. On peut se dire que si Jésus est provoquant, alors il y a quand même aussi un autre indice, regardez tout de suite après le verset 66, donc le 67, il se tourne vers les 12. Et vous ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir partir, vous aussi, là ? Ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en allez ? Bon, là, quand même, on dirait presque que Jésus le souhaite. Hein ? Je pense qu'il s'agit de, pour Jésus, beaucoup plus que simplement faire du ménage. Parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'idée. Je me dis, ben, Jésus, finalement, ne veut plus s'encombrer de gens qui, de toute façon, en finale, ne croiront pas. Et c'est marqué en toutes lettres, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il parle de Judas. Alors on se dit, ben voilà, c'est pour ça. Jésus, il dit, bon, autant garder ceux qui tiennent ferme, qui en ont. Eh bien, je crois que c'est pas faux, mais c'est un peu simpliste, c'est incomplet. En réalité, je crois que là, Jésus effectue une mise à l'épreuve de tous ces gens qui l'entourent, une mise à l'épreuve de leur foi, tout simplement. Avec comme résultat, effectivement, de faire le tri, c'est-à-dire que ceux qui, malgré cette provocation et ces paroles dures et difficiles à encaisser, vont continuer à le suivre. Et puis, effectivement, ceux qui, pour qui la coupe est pleine, vraiment trop c'est trop, là Jésus il est allé beaucoup trop loin, effectivement, quand c'était des miracles, alors là on le suivait Jésus, mais quand il prononce ces paroles, là non, ça ne va plus. Bon, bye bye, demi-tour, on rentre à la maison. Alors effectivement, il y a ce que j'appelle, le ménage chez Jésus, il fait le tri. Mais la mise à l'épreuve va lui permettre à Jésus d'induire un nouveau message. En fait, il dit à tous ces gens, et il nous dit à nous, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes scandalisés, mais en dehors de ça, est-ce que vous croyez toujours en moi ? Alors ça, moi, je trouve que c'est une question très intéressante. Alors quand je dis, elle s'adresse aussi à nous, parce que regardez bien dans la Bible, combien de fois on tombe sur des textes. Il y a 15 jours, Anne nous a présenté la parabole de l'intendant infidèle. Bon, merci Anne pour toutes ces explications, etc. Mais regardez bien, il nous reste toujours une petite incompréhension, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment le maître infidèle peut-il dire le maître peut-il dire à l'intendant infidèle le louer, approuver son action alors qu'il vient de le l'escroquer, enfin oui, bon. Et comme ça, dans la Bible, il y en a plein des textes. Il y en a plein. Regardez les ouvriers de la dernière heure. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, composer toutes les explications, vous garderez toujours une petite amertume en disant un truc qui n'est pas juste là. Comment alors, que les derniers ouvriers qui ont travaillé qu'une heure, ils sont payés autant que ceux qui ont travaillé toute la journée, ça va. voyez, sagesse de Dieu, sagesse des hommes, regardez, le conflit, il y a un truc qui ne va pas. Et pourtant, Jésus, il nous donne la solution dans cette parabole, il dit, mais ils n'ont pas été volés, les premiers, hein, puisqu'ils avaient convenu d'un salaire, qui était un bon salaire, hein, un bon salaire, pour travailler toute la journée, ben, ils l'ont eu. Et pourquoi sont-ils furieux à la fin? Parce que le maître est bon envers les derniers, hein. Comment ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Vous voyez, on a la solution et en même temps, ça va pas. Eh bien oui, parce que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes, mais c'est celle que nous avons. Notre raison nous dit non, ça va pas. La boucle est bouclée, on est toujours dans le même sujet, hein, de folie, de sagesse. Alors, donc, une mise à l'épreuve. Quand nous sommes devant des questions sans réponse évidente, des textes difficiles, mais pas seulement dans la parole de Dieu, également dans la vie, les situations. Regardez, cette nuit, tremblement de terre en Haïti. Vous êtes au courant, cette nuit? Ils en sont 300 morts, à mon avis, ils vont dépasser le millier, parce que c'est les morts découverts. Sous les décombres, ils vont trouver des portes. Et là, une fois de plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur permet? Qu'il y ait des guerres, des morts dans les guerres, c'est le péché des hommes, ils veulent se faire la guerre. Mais pourquoi Dieu devrait les empêcher? Mais là, un tremblement de terre, des enfants écrasés sous les tonnes de béton. Alors on se dit, mais elle est où la sagesse de Dieu? Et Jésus nous pose la question, oui, effectivement, ça vous scandalise, vous ne comprenez pas. Mais, est-ce que vous croyez toujours? Est-ce que vous croyez en moi? C'est là la question. Alors, que pouvons-nous répondre? Eh bien, peut-être ce que répond Pierre. Quand Jésus va très loin dans la provocation, puisqu'il se tourne vers les plus fidèles des fidèles, et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Simon Pierre qui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Est-ce que c'est parce que Pierre a compris? Certainement pas. Laissez-moi vous dire encore une fois, Pierre, pas plus que les autres, il n'a rien pigé à ce que vient de dire Jésus. La preuve, c'est que quelque temps après, quand effectivement Jésus annoncera de façon claire qu'il doit souffrir, être arrêté, condamné et mourir, Pierre, non, Seigneur, hein, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, il a déjà la main sur l'épée. Et d'ailleurs, il joue le geste à la parole, puisqu'à Gethsémané, eh bien, il dégaine l'épée et il frappe. Oui, il n'a rien compris. Et pourtant, regardez, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, vous voyez, ce message aujourd'hui, effectivement, il nous fait pas comprendre dans le sens intelligence, vous voyez, analyse, le sens de la compréhension, quoi, quelque chose de Dieu, mais il nous donne une piste à suivre. Toutes les fois où on ne comprend pas les paroles de Dieu, je ne comprends pas. Vous savez, c'est toutes les... Je veux dire, tous les jours, si on lit la Bible, regardez même dans le Notre Père, ne nous induit pas en tentation. Ah, ça fait couler de l'encre, ça. Hein, ne nous soumet pas à la tentation. Mais Dieu ne soumet à la tentation personne, c'est écrit dans l'épître de Jacques. Je ne comprends pas. Mais c'était les paroles de Jésus. Et je veux croire que le texte grec, je ne connais pas le grec, mais le grec, la traduction, la seule traduction possible, c'est bien ça. Hein. Ne nous induit pas, ne nous conduit pas dans la tentation. Je ne comprends pas. Mais peu importe, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irai-je autre que toi? Une chose à laquelle il faut faire très attention, ce que je suis en train de vous dire, ne doit pas nous faire déraper vers ce qui serait une énorme erreur. C'est de dire... Je ne comprends pas la Bible, la plupart, peu importe, je crois. Voilà, je fais confiance au Seigneur, donc c'est pas la peine de se creuser la tête, c'est pas la peine d'étudier. Je lis la Bible, amen, puis on passe à autre chose. Je fais confiance au Seigneur, il sait ce qu'il fait. Alors ça, c'est une paresse intellectuelle. Et Jésus, en aucun cas, nous dit, au travers de ce texte, la façon dont je l'interprète, en aucun cas, il nous dit, ne cherchez pas à comprendre, mais croyez. Non. Alors ça, c'est le gros paradoxe. Vous voyez, j'ai découvert ça comme un énorme paradoxe. Parce que Jésus nous dit, si vous ne comprenez pas, croyez tout de même en moi. Et en même temps, il nous dit, cherchez à comprendre. Et il nous encourage. Et sur les passages qui nous sont dit, toute une vie s'il faut, cherchez, et vous trouverez. Cherchez, creusez, travaillez ma parole. Jésus, tout du long de l'évangile, encourage les gens à s'interroger sur Dieu, à pénétrer sa parole, à se l'approprier. Voyez. Donc, attention, le piège, ça s'appelle l'acédie, dans un terme théologique, l'acédie, c'est la paresse intellectuelle. Que du bon, je comprends pas, je laisse tomber, de toute façon, certainement, Dieu il sait ce qu'il fait, hein, on lui fait confiance. Alors en plus, on se jette une petite couronne de laurier en disant j'ai une foi béton parce que je fais une confiance absolue à Dieu. Non, c'est de la paresse intellectuelle. Hein. Donc, le paradoxe il est là, et je vais vous livrer un petit témoignage personnel. À chaque fois que je dois préparer une prédication, eh bien, il y a toujours un moment, dans quel que soit le texte que je prends, enfin, c'est-à-dire le texte du jour, il y a toujours un moment où je dis là, je comprends pas. Et c'était le cas hein, aujourd'hui. Pourquoi Jésus, voilà la question, je vous la répète, pourquoi Jésus est-il provoquant? Pourquoi ces paroles livrées comme ça, sans édulcorant hein, c'est bon. Et à chaque fois que je tombe donc sur une question, un texte, je me dis, eh ben, c'est là le sujet de la prédication. Alors il va falloir travailler parce qu'il faudra que j'ai quelque chose à dire à tous ces braves gens dans ce temple. Je ne vais pas rester sec. Mais je me dis, oui, c'est là. C'est là qu'il faut concentrer le tir. Alors là, on travaille, on prie et on relit le texte, etc. Et alors il se produit quelque chose, vous l'avez certainement expérimenté. Quand vous ne lâchez pas le morceau, vous n'avez pas compris une fois, pas compris deux fois, pas trois fois, etc. Vous continuez, vous relisez, vous, dans la journée, vous repensez à ce texte. Et puis tout doucement, vous approchez déjà peut-être d'une réponse, il y a quelque chose qui se... Mais peu importe, il se passe en nous quelque chose que j'appellerais, qui est de l'ordre de l'édification de la foi. Et alors là, avec ce sujet, j'ai découvert que finalement, la foi, elle se construit par la marche en avant, la recherche, le travail. Elle ne se construit pas à chaque fois qu'on a atteint une connaissance. Ah, ça y est, Eureka, hein, Eureka, ça doit vouloir dire j'ai trouvé, ça y est. Alors, ça arrive, c'est très bien. Mais je crois davantage que la foi chrétienne, là aussi c'est un énorme paradoxe, c'est une marche, c'est pas avoir atteint le but. Vous savez, dans toutes les religions, on doit avoir atteint des niveaux. Et quand on atteint le niveau super plus, on est le gourou de ceci, on est le grand prêtre de cela. Mais la foi chrétienne, c'est pas ça du tout. C'est le fait d'être en avant. Et ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à creuser la parole de Dieu, c'est s'arrêter. Et alors la foi, là, elle ne se construit plus. Et même, je dirais, elle tombe en ruine, tout doucement. Marcher en avant, chercher, peu importe qu'on arrive un jour à trouver la sœur, enfin, on l'aura dans le royaume des cieux, c'est clair, mais sur cette terre, peu importe qu'on atteigne la compréhension totale et complète de telle ou telle chose, difficile à comprendre ou qui nous échappe, peu importe, notre foi se construit par le travail sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a, dans la Bible, il y a une parole qui parle de chaud, froid et tiède. C'est dans l'Apocalypse, si mes souvenirs sont bons, la dernière lettre aux églises, la lettre à Laodicée en l'occurrence, où le Seigneur dit à cette église, tu n'es ni bouillant ni froid. Puisses-tu être bouillant ou froid, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors, en matière d'étude de la parole de Dieu, être bouillant, c'est l'idéal. C'est-à-dire que c'est celui qui travaille la parole, qui se régale à travailler. On devrait, et je crois qu'on y prend goût, c'est un peu, vous savez, on dit l'appétit vient en mangeant. eh ben, le plaisir de la parole de Dieu, il vient en l'étudiant. Hein. Alors ça, c'est le bouillant, c'est idéal. C'est idéal. Mais à tout prendre, le Seigneur préfère encore les froids, c'est-à-dire ceux qui n'ont absolument rien à faire. Le vieux bouquin, là, attendez, merci bien. Aucun intérêt, chez les non-croyants. Et pourquoi c'est mieux que tiède? Parce qu'avec le froid, ben, tout espoir est encore permis. Aucun intérêt, rien. Mais imaginez qu'un évangéliste ou quelqu'un, un témoin de l'évangile, vienne dire un mot et éveille une curiosité chez cet homme qui est froid, cette personne qui est froide vis-à-vis de la parole de Dieu. Et puis tout peut démarrer. Et peut-être, au bout d'un moment, il va être bouillant. Parce qu'il se sera converti, il se sera repenti de son péché, il aura accepté le sacrifice du Seigneur pour lui, etc., etc. Par contre, le tiède, c'est terrible. Parce que le tiède, c'est ce que je vous disais, c'est le paresseux, intellectuellement parlant, c'est-à-dire celui qui, bon, il croit, oui, il croit, mais il n'est pas passionné. Et alors là, c'est terrible parce que il se satisfait de cette situation. Il se dit, c'est bon, j'ai confiance en Dieu, très bien. Et puis, il ne cherchait plus à avancer. Et comme je vous l'ai dit, quand on n'avance plus en matière de foi, eh bien, on recule. Eh bien, voilà, donc, le message, bon, bien sûr, il y a beaucoup de messages dans ce texte. On aurait pu analyser, une fois de plus, le pain du ciel, manger ma chair, voir mon sang, c'est-à-dire se nourrir spirituellement de tout ce qu'apporte Jésus, etc. Mais je voulais vraiment attirer votre attention sur ce côté incompréhensible des paroles de Dieu, parfois, qui, loin d'être un aspect négatif pour notre foi, au contraire, vont devenir un aspect extrêmement positif dès lors qu'on va dire « je vais lire, relire, et comprendre, et chercher, et travailler, me renseigner. » Et là, nous avançons vers le royaume des cieux. Amen.